Aujourd'hui, je vais vous lire la continuité du maître de l'œuvre, la synthèse des yogas. Number one, le yoga des œuvres de Sri Aurobindo. Les pouvoirs que nous nous plaisons maintenant à qualifier de gnose, d'intuition ou d'illumination sont seulement des lumières affaiblies dont cela est la source pleine et flamboyante. Entre autres, la plus haute intelligence humaine, et cela s'échelonne de nombreux niveaux de conscience ascendante, mentale ou surmentale, qu'il nous faut conquérir avant d'arriver là ou de pouvoir faire descendre ici sa grandeur et sa gloire. Pourquoi ? Pourtant, quelle que soit la difficulté, cette ascension, cette victoire est la destinée de l'esprit humain. Et cette descente lumineuse, ou cette incarnation de la vérité divine, est le terme inévitable de l'évolution tourmentée de la nature terrestre. Cet aboutissement prédestiné est à la fois la raison d'être de l'évolution, notre état culminant et la justification de notre existence sur la terre. Car bien que le divin transcendant soit déjà ici-bas, le Purushottama au centre secret de notre mystère, il est voilé par les nombreuses enveloppes et les infinis déguisements de sa magique yogamaya mondiale. C'est seulement par l'ascension et la victoire de l'âme, ici-bas, dans le corps, que les déguisements peuvent tomber et le dynamisme de la suprême vérité prendre la place de cette trame embrouillée faite de demi-vérités qui deviennent une erreur créatrice et remplacer cette connaissance émergente qui, par son plongeon dans l'inconscience de la matière et son lent retour partielle à elle-même, s'est changée en une ignorance effective. Alors, je vais vous lire ce que Sri Aurobindo exprime. Sri Aurobindo a distingué différents niveaux de conscience au sein du mental. Le mental supérieur, mental illuminé, mental intuitif et surmental, pour ne parler que des zones au-dessus de notre mental pensant ordinaire. Le surmental est le sommet de notre type d'humanité actuelle. C'est le monde des grands créateurs, ce que diverses traditions appellent le monde des dieux. C'est de là que tous les grands fondateurs de religions, prophètes, poètes, artistes, hommes de pouvoir, surhumains, ont tiré leur vision et leur inspiration. C'est le surmental qui a présidé à notre cycle humain actuel et qui est en train de prouver son impuissance et sa faillite. Car, si haut soit-il, si divin semble-t-il, c'est encore un type de conscience mentale, une apogée du mental avec son vice séparatif. Certes, la conscience surmentale est une conscience immense, cosmique, mais elle porte seulement à leur absolu tous les grands principes qui préside à la destinée actuelle des hommes. Justice absolue, amour absolu, beauté absolue, égalité absolue, etc. Mais elles n'effectuent pas leur réconciliation. Chacun voit un point de vue et un seul et lui donne seulement une application cosmique, tel le vaisseau d'un phare qui balaye tout, mais aboutit à un point, ainsi des grandes religions. Shravindo a découvert et exploré, après les rishis védiques, un autre principe de conscience, global, qu'il appelle supramental, qui seul a le pouvoir d'opérer l'harmonisation et de transformer la structure de notre existence actuelle. Entendons-nous bien qu'il ne s'agit pas d'une amélioration de notre type d'existence actuelle, pas d'une surhumanité qui serait seulement un super gonflement de l'humain actuel, mais d'un autre pouvoir de conscience et d'existence, d'un autre être sur la Terre, parmi bien d'autres, l'ère supramentale marquera la fin du temps des religions. Car ici, dans le monde, ce n'est pas la gnose qui agit, bien qu'elle soit secrètement derrière l'existence, mais la magie d'une connaissance ignorante, une maya surmentale imprévisible et pourtant mécanique en apparence. D'un certain point de vue, en effet, le divin nous apparaît ici-bas comme un esprit témoin inactif et impersonnel, pour qui toutes les choses sont égales, un purusha immobile et consentant qui n'est pas lié par les qualités ni par l'espace, ni par le temps, et qui impartialement donne son support et son assentiment au jeu de toutes les actions et de toutes les énergies auxquelles la volonté transcendante a une fois permis de s'accomplir dans le cosmos. Cet esprit témoin, ce moi immobile dans les choses, semble ne rien vouloir et ne rien déterminer. Et pourtant, nous nous apercevons que, par sa capacité même, par sa présence silencieuse, il contraint toute chose à voyager, en dépit de leur ignorance, vers un but divin, et qu'il les attire à travers la division vers une unité encore irréalisée. Pourtant, aucune volonté divine suprême et infaillible ne semble être là, mais seulement une énergie cosmique partout déployée ou quelques processus qui mécaniquement exécutent Pakriti. Ce n'est là qu'un côté du moi cosmique. L'autre se présente comme un divin universel, unique en l'être, multiple dans sa personnalité et le pouvoir qu'il nous apporte quand nous entrons dans la conscience de ses forces universelles, la perception d'une qualité infinie, d'une volonté et d'une activité infinie, d'une connaissance vaste comme le monde, d'une félicité unique et pourtant innombrable. Car à travers lui, nous devenons un avec toutes les existences, non seulement en leur essence, mais dans le jeu de leur action. Nous nous voyons nous-mêmes en tout et tout en nous-mêmes. Nous percevons toute connaissance, toute pensée, tout sentiment, comme les mouvements d'un seul mental et d'un seul cœur. Toute énergie et toute action, comme l'élan d'une seule volonté en son pouvoir. Toute matière et toute forme comme les particules d'un seul corps. Toutes les personnalités comme les projections d'une seule personne. Tous les égos comme les projections et les déformations d'un unique je véritable dans l'existence. En lui, nous ne sommes plus séparés. Nous perdons notre ego actif dans le mouvement universel, de même qu'avec le témoin sans qualité et à jamais détaché au-dessus de la mêlée. Nous perdons notre ego statique en la paix universelle. Pourtant, une contradiction demeure encore entre ces deux termes. Le silence divin en dehors de tout et l'action divine qui embrasse tout. Et nous pouvons la guérir en nous-mêmes d'une certaine manière en montant à un certain haut degré qui peut nous sembler complet, mais qui ne l'est point cependant, parce qu'il ne peut pas tout à fait transformer ni tout à fait conquérir. Certes, nous avons fait nôtre la paix, la lumière, la béatitude et le pouvoir universel, mais leur expression effective n'est pas celle de la conscience de vérité, de la gnose divine, et bien qu'elle soit merveilleusement libre, élevée, illuminée, elle ne fait que soutenir l'expression présente de l'esprit cosmique sans pour autant transformer comme le ferait une descente transcendantale. Les symboles ambigus et les mystères voilés du monde de l'ignorance. Nous sommes libres quant à nous, mais la conscience terrestre reste en esclavage. Seule une autre ascension transcendantale et une descente du transcendant peuvent guérir complètement la contradiction. Seules elles peuvent transformer et délivrer. En effet, il existe encore un troisième aspect du maître des œuvres, un aspect intensément intime et personnel qui donne la clé de son mystère le plus sublime et de son extase secrète. Car des profondeurs de sa transcendance cachée et du déploiement ambigu du mouvement cosmique, il détache un pouvoir divin individuel qui peut servir de médiateur entre les deux et nous construire un passage de l'un à l'autre. Sous cet aspect, c'est la personne transcendante et universel du divin qui s'adapte à notre personnalité individualisée et accepte une relation personnelle avec nous. Il s'identifie à nous en devenant notre moi suprême. et en même temps il se fait différent, bien que proche, en devenant notre maître, notre ami, notre bien-aimé, notre instructeur, notre père et ou notre mère, notre compagnon de jeu dans le grand jeu du monde. Car c'est lui qui tout du long s'est déguisé derrière l'ami et l'ennemi, l'aide et l'adversaire. Lui qui dans toutes les relations et dans toutes les activités qui nous affectent conduisait nos pas vers notre perfection et notre délivrance. C'est à travers cette manifestation plus personnelle que nous pouvons accéder à quelques possibilités de l'expérience transcendantale complète. Car en lui, nous rencontrons l'un, non seulement dans une paix et un calme libérés, non seulement dans une soumission passive ou active au milieu de nos œuvres, ou dans le mystère d'une union avec une connaissance et un pouvoir universel qui nous emplissent et nous guide, mais dans l'extase d'un amour divin et d'une félicité divine qui nous projette au-delà même du témoin silencieux et au-delà du pouvoir cosmique actif, jusqu'à la divination concrète d'un secret béatifique encore plus grand. Car ce n'est pas tant une connaissance qui conduit à quelque absolu ineffable, pas tant des œuvres qui nous soulèvent au-delà des processus cosmiques vers le Maître suprême et connaisseur originel, mais plutôt quelque chose de très intime pour nous, bien qu'encore très obscur, qui garde, enveloppé dans son voile passionné, le secret profond et ravissant de la divinité transcendante. Et la réalité, si absolument concrète, de son être parfait, de sa béatitude qui embrasse tout, de son ananda mystique. Mais cette relation individuelle avec le divin n'apporte pas toujours, ni dès le début, un élargissement plus vaste de notre être, ni un suprême dépassement de soi. Au début, c'est seulement dans les limites de notre nature et de notre expérience personnelle que peut se faire pleinement sentir cette divinité proche de notre être ou immanente en nous. C'est le chef et le maître, le guide et l'instructeur, l'ami, le bien-aimé. Oui, c'est l'esprit, le pouvoir, la présence qui nous soulève et remplit notre mouvement d'élargissement vers le haut, par la force de sa réalité intime logée en notre cœur, ou qui d'en haut préside à notre nature et même à notre intelligence la plus haute. C'est notre évolution personnelle qui est sa préoccupation, une relation personnelle qui est notre joie, notre plénitude, un modelage de notre nature à son image divine, qui est la découverte de nous-mêmes et notre perfection. Le monde extérieur semble n'exister que comme le champ de cette croissance, comme la réserve des matériaux ou des forces qui aident les étapes successives de ce développement ou s'y opposent. Les œuvres qui nous accomplissons en ce monde sont ces œuvres. Mais même qu'elles servent quelques fins universelles temporaires, leur but principal pour nous est de donner un dynamisme extérieur à nos relations avec ce divin immanent, ou de leur donner un pouvoir intérieur. Bien des chercheurs ne demandent rien de plus, croient que c'est seulement dans les cieux au-delà que se continue et s'achève cet épanouissement spirituel. Là-haut, dans la demeure éternelle de sa perfection et de sa joie et de sa beauté, l'union trouve son couronnement et devient perpétuelle. Ce n'est pas suffisant pour le chercheur intégral. Si intense et si beau soit-il, son accomplissement personnel isolé ne peut être son but complet, ni son existence entière. Un temps doit venir où le personnel s'ouvre à l'universel. Notre individualité même spirituelle, mentale, vitale et même physique doit s'universaliser. Nous voyons qu'elle est un pouvoir de sa force universelle et de son esprit cosmique, ou qu'elle contient l'univers dans cette ineffable immensité qui se dévoile à la conscience individuelle quand elle brise ses liens et se répand en haut vers le transcendant et de tous les côtés en l'infini. Quand on vit entièrement le yoga sur le plan du mental spiritualisé, il est possible et même usuel que ces trois aspects fondamentaux du divin, individuel ou immanent, cosmique et transcendant, se présentent comme des réalisations séparées. Chacun en soi paraît suffisant à satisfaire l'aspiration du chercheur, seul avec le divin personnel, dans la chambre secrète et illuminée du cœur intérieur. Il peut construire son être à l'image du bien-aimé et sortir de la nature déchue pour vivre avec lui en quelque ciel de l'esprit. Dissous dans l'immensité cosmique, délivré de l'ego, sa personnalité réduite à un point d'appui pour l'action de la force universelle lui-même, calme, libéré, immortel en l'universalité, immobile en le moi témoin, mais en même temps étendu sans limite dans l'espace et dans le temps éternel. Il peut se réjouir au milieu du monde de la liberté de cela qui est hors du temps, tendu vers quelque ineffable transcendance, rejetant sa personnalité, se débarrassant du labeur et du souci du dynamisme universel, il peut s'échapper dans un inexprimable nirvana, annuler tout dans une intolérante fuite exaltée en l'incommunicable. Mais aucun de ces accomplissements n'est suffisant pour celui qui cherche la vaste et complète perfection du yoga intégral. Le salut individuel n'est pas assez pour lui, car il a débouché dans une conscience cosmique qui, par sa largeur et son immensité, dépasse infiniment l'étroite intensité d'une réalisation individuelle limitée en son appel et son appel est impérieux. Poussé par cette immense compulsion, il doit se frayer un passage à travers toutes les frontières séparatives, se déployer dans la nature cosmique et contenir l'univers. D'en haut aussi, du suprême, une réalisation dynamique le presse en urgence et fait pression sur ce monde des êtres vivants. Car c'est seulement quand il embrasse et dépasse la conscience cosmique que cette splendeur encore improdiguée peut se manifester ici-bas. Mais la conscience cosmique non plus n'est pas suffisante, car elle n'est pas toute la réalité divine, pas la réalité intégrale. Derrière la personnalité se cache un secret divin que nous devons découvrir là, attendant d'être délivrés pour entrer ici-bas, dans le temps, se tient le mystère de l'incarnation de la transcendance. Car finalement, dans la conscience cosmique, il reste un hiatus, une équation inégale entre la connaissance suprême qui peut libérer non mais non réalisé, et un pouvoir qui semble utiliser une connaissance limitée ou qui se masque derrière une surface ignorante et qui peut créer, certes, mais qui crée l'imperfection ou une perfection transitoire, limitée et enchaînée. D'un côté, nous avons le témoin libre mais non dynamique, et de l'autre, prisonnière, une exécutrice d'action à qui tous les moyens d'action n'ont pas été donnés. La réconciliation de ces deux termes, compagnon et opposé, semble être réservée, différée, retenu dans le non manifesté qui nous échappe encore. Mais une fois de plus, la fuite pure et simple dans une transcendance absolue laisse inaccomplie la personnalité et sans conclusion satisfaisante l'action universelle. Ceci ne peut pas satisfaire le chercheur intégral. Il sent bien que la vérité qui est à jamais est un pouvoir qui crée autant qu'une existence statique et qu'elle n'est pas seulement un pouvoir créateur d'une manifestation illusoire ou ignorante. Une vérité éternelle peut manifester ses vérités dans le temps. Elle peut créer dans la connaissance et pas seulement dans l'inconscience et l'ignorance. Une descente du divin est impossible, est possible. Une descente du divin est possible, autant qu'une ascension vers le divin. Il existe un espoir de faire descendre ici-bas une perfection future et la délivrance maintenant. À mesure que sa connaissance s'élargit, le chercheur voit de plus en plus clairement que c'est dans ce but que le maître des œuvres avait jeté une âme en lui, ici-bas, comme une étincelle de son feu dans notre obscurité, afin qu'ici-bas, elle puisse croître et devenir un centre de lumière qui est à jamais. Le maître de l'œuvre, la synthèse des yogas, number one, de Sri Aurobindo. Je remercie infiniment pour cette lecture qui nous révèle des secrets intérieurs. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et douce mère Ganga Lakshmi.